de la mi-journée. Bonjour.
Bonjour. Après le séisme, après le tsunami, le Japon est maintenant dans la crainte d'un accident nucléaire, la crainte de la fusion d'un réacteur de la centrale de Fukushima. Une explosion s'y est produite, le toit et une partie des murs abritant ce réacteur se seraient effondrés. Il est désormais conseillé aux habitants de la région de se calfeutrer chez eux, alors que le périmètre d'évacuation vient d'être étendu à 20 km autour de cette centrale. Nous entendrons Georges Baumgartner pour nous apporter les dernières précisions avant de recevoir Hans-Björn Puttgen, professeur et directeur de l'énergie centrale de l'EPFL. Avec lui, nous allons tenter de comprendre en quoi consiste précisément ce processus de fusion nucléaire, quels en sont les dangers, quelles sont les étapes de ce processus et quelles en sont surtout les conséquences. L'essentiel donc de ce journal sera consacré au Japon. Avant notre magazine, 15 minutes consacrées aujourd'hui à l'amiante, autrefois isolant miracle, aujourd'hui un poison mortel que l'on retrouve dans presque tous les bâtiments des années 60 et 70. Un poison que Genève et le canton de Vaud depuis le début de ce mois veulent mieux éliminer, la hantise de l'amiante, un reportage à écouter d'ici une dizaine de minutes. La météo, avec de plus en plus de nuages au fil de l'après-midi, accompagné de 14 degrés en plaine jusqu'à 17 en vallée en raison du faune. Demain, des nuages encore et quelques averses possibles en cours de journée. Prévision complète de Carole Dubuis en fin de journal.
Infotrafic RSR.
Sur la une, Lausanne-Genève, on roule toujours au pas entre l'échangeur des cubes longs et Roll, ainsi qu'entre le pont de la Versoie et l'aéroport en direction de Genève. Par ailleurs, les parkings aux abords de Palexpo sont quasi complets et des ralentissements sont encore observés sur l'A9 Martigny-Lausanne, entre Aigle et l'échangeur de la Vère en direction de Lausanne, en raison des retours de vacances. Après le séisme, après le tsunami qui a provoqué, selon le tout dernier bilan, plus de 1400 morts et disparus, c'est donc la crainte d'un accident nucléaire qui se fait de plus en plus présente au Japon. Les autorités craignent la fusion d'un réacteur à la centrale de Fukushima Daiichi à 240 km au nord de Tokyo. Une explosion s'y est produite, faisant s'effondrer une partie des murs du bâtiment qui abrite le réacteur numéro 1. Le toit de ce bâtiment s'est également effondré alors qu'une épaisse fumée blanche s'en élève. Les télévisions, elles, conseillent aux Japonais résidant dans la région de se calfeutrer chez eux, de fermer les fenêtres et de ne pas utiliser les systèmes de climatisation chauffante. Tout de suite, les précisions de notre correspondant à Tokyo, Georges Baumgartner.
Les chaînes de télévision japonaises montrent des images de cette forte explosion. Une partie du bâtiment abritant le réacteur s'est effondrée. Les chaînes de télévision montrent aussi de la fumée s'élevant au-dessus de la centrale de Daiichi, située proche de l'épicentre. Mais la déflagration ne proviendrait pas du réacteur. 4 employés de la centrale seraient blessés et auraient été transportés à l'hôpital. L'Agence de sécurité nucléaire estime qu'une fusion pourrait être en cours dans le réacteur de la centrale. Tokyo Electric, le propriétaire de la centrale, affirme le contraire et explique que la compagnie d'électricité tente de faire remonter le niveau d'eau pour refroidir le réacteur. Les autorités japonaises jugent très possible que des barres de combustible nucléaire aient fondu ou soient en train de fondre. Mais elles estiment le risque de fuite radioactive limité. La zone autour de la centrale a été évacuée dans un rayon de 10 km et maintenant de 20 km. Georges Baumgartner, Radio Suisse Romande, Tokyo.
On vient de l'entendre, les autorités craignent donc un processus de fusion dans le cœur de l'un des réacteurs de cette centrale. On va essayer de mieux comprendre ce qui se passe avec vous, Hans-Björn Puttgen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur et directeur de l'énergie centrale de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, ce centre qui initie, qui coordonne les grands programmes de recherche dans le domaine de l'énergie. Alors, on connaît la fission, hein, ça c'est le processus normal dans une centrale nucléaire. La fusion, qu'est-ce que c'est? Alors là, dans ce cas-là précisément.
Alors, je crois que d'abord, il faut éviter de confondre deux aspects très différents. On est en train là de parler de centrales, ce qu'on appelle à eau légère, où le phénomène nucléaire est une fission, c'est-à-dire que vous prenez de très gros atomes avec beaucoup de neutrons et vous les cassez en deux, ça crée d'autres neutrons et en fait, vous avez là donc une réaction qui crée de la chaleur. Ça, c'est la fission. La fusion thermonucléaire est différente. Là, vous prenez des toutes petites atomes et vous les collez ensemble à des très hautes températures, et ça, c'est ce qu'on appelle la fusion contrôlée, c'est la réaction nucléaire qui est de base, qui se passe sur le Soleil. Alors, la fusion dont on parle ici, c'est en fait la fusion du cœur, c'est-à-dire du carburant nucléaire qui se trouve dans le cœur du réacteur en question. Donc c'est ça la fusion donc on va essayer d'évoquer aujourd'hui.
Alors ça provient de quoi en fait? Ça provient d'un manque de refroidissement. On dit qu'il n'y a plus assez d'eau dans le cœur de ce réacteur, c'est ça? Alors, ça chauffe en fait.
Donc effectivement, le but de tout réacteur nucléaire, que ça soit la même chose d'ailleurs que ça soit une centrale au charbon, au gaz ou au pétrole, c'est effectivement de créer de la chaleur, d'extraire cette chaleur et de par cette chaleur de faire tourner une turbine qui crée de l'électricité. C'est ça le but même de la chose. Donc évidemment, dans un cas d'un réacteur nucléaire, il y a un refroidisseur qui est là, c'est cette calorie porteur qui dans le cas présent est de l'eau, sort la chaleur de cette centrale nucléaire et fait à la fin tourner une turbine et d'électricité. Dans le cas présent, ce qui se passe lorsque cette centrale peut être endommagée, c'est qu'il faut s'assurer que l'on continue de la refroidir, même si elle n'est pas activement en train de produire de l'énergie.
Mais alors qu'est-ce qui se passe si ça chauffe? Il n'y a plus assez d'eau, le cœur chauffe. Qu'est-ce qui se passe à la fin? On imagine quand on parle de fusion que tout va exploser finalement.
Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une explosion. Il faut d'abord peut-être, en 30 secondes, faire une différence. Il y a deux types de grandes centrales qui fonctionnent dans les pays industrialisés. Une qui s'appelle à eau bouillante, Boiling Water Reactor, BWR, et l'autre qui s'appelle à eau pressurisée, Pressure Water Reactor, PWR. Dans le cas présent, c'est une Boiling Water Reactor que l'on a ici, dans ce cas présent. Au Japon, il y a les deux. Et là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, si on n'arrive pas à suffisamment refroidir le cœur de ce réacteur, on arrivera à une situation où ça va s'échauffer, c'est ce qui est en train de se passer, semble-t-il, et un certain nombre de barres, et on reviendra là-dessus plus tard, qui contiennent de l'uranium, sont exposées, ne sont plus refroidies, et effectivement, il se peut que le cœur continue d'échauffer, de s'échauffer, si on n'arrive pas à le refroidir artificiellement.
Mais les conséquences, c'est quoi? C'est l'émission de radioactivité?
Alors, on a déjà eu dans ce phénomène, afin d'essayer de le refroidir et de faire descendre la pression dans le cœur même du réacteur, on a fait laisser échapper d'une façon contrôlée un peu de vapeur pour diminuer la pression. C'est important de diminuer cette pression parce que c'est seulement dans ce cas-là qu'on arrivera à mettre plus d'eau dedans pour continuer à la refroidir.
Mais quand on parle de cette fusion, on pense que c'est incontrôlable. Donc il y a quand même des moyens pour tenter de limiter les effets de cette fusion-là.
Alors c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Il semble que ça soit surtout un réacteur qui soit touché dans cette centrale de Fukushima 1, il y en a 6 en tout sur le même site, c'est le numéro 1 qui est touché. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de diminuer la pression dans ce réacteur et injecter de l'eau dedans. À l'heure actuelle, il n'est pas clair ce qui a réellement explosé. Est-ce que c'est le bâtiment qui est autour? C'est ce qui semble plus probable. Ou est-ce que le cœur lui-même est endommagé?
Je vous remercie de ces précisions, Hans-Bjørn Pilgen, donc directeur de l'Energie Center de l'EPFL, professeur là également. Merci de nous avoir rejoints en direct, invité par Michel Eman dans ce 12-30. Et bon après-midi à vous. Merci. On va parler de la Libye maintenant, puisque les opposants au régime de Tripoli ont, semble-t-il, perdu le contrôle de Ras Lanouf. D'intenses bombardements les ont contraints la nuit dernière à se replier à une vingtaine de kilomètres de ce port pétrolier où se trouvait jusqu'à présent la ligne de front. En Israël maintenant, cet attentat dans le nord de la Cisjordanie. 5 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées la nuit dernière dans la maison de leur colonie d'Itamar, près de Naplouse, tous poignardés par un Palestinien. Une attaque qui survient après une période de tension dans cette partie de la Cisjordanie où l'armée israélienne a évacué une colonie sauvage. Les explications de notre correspondante à Tel Aviv, Aude Markovitch.
C'est une vision d'horreur que les services médicaux israéliens ont découvert quand ils sont arrivés vers 1h du matin sur les lieux du drame. Les parents, 2 enfants de 11 et 3 ans et un bébé d'un mois poignardés à mort dans les chambres de la maison. La fille aînée de 12 ans qui a échappé au massacre ainsi que 2 de ses petits frères a pu fuir chez les voisins pour donner l'alerte. L'attaque serait due à un Palestinien qui se serait introduit dans cette colonie du nord de la Cisjordanie. Elle survient après 2 semaines de tensions dans la région de Naplouse. Les troubles ont commencé quand l'armée israélienne a évacué une colonie sauvage, provoquant de violents affrontements avec ses habitants. S'en sont suivies des actions de représailles contre les Palestiniens de la part des colons qui ont incendié des champs d'oliviers. Palestiniens, colons et armée israélienne se sont alors à nouveau affrontés, les soldats faisant usage de balles réelles. L'attaque la nuit dernière dans la colonie d'Itamar est la plus meurtrière depuis des années contre des civils israéliens. Aude Markovitch, Radio Suisse Romande, Tel Aviv.
En Suisse maintenant, la déferlante des nanos n'a décidément pas de limite. Un bijoutier jurassien propose une seconde vie aux personnages distribués jusqu'à lundi par la Migros et qui font fureur, on le sait, chez les enfants. Inspiré par son fils de 11 ans, Francis Schwab a adapté son fermoir breveté aux nanos. Résultat, des bijoux interchangeables et réutilisables et une échoppe qui ne désemplit pas. Gaëlle Klein, elle l'a rencontré.
Alors, tu peux choisir de faire deux trous ou trois trous, en fait.
Alors, quand est-ce qu'on peut venir, Francis ?
Fin de la semaine prochaine.
Ouais. D'accord, Hugo ? Ouais. Un jour ? Okay. Parce que tu vas chez nous, on revient chercher ça.
Ok.
Bon, qu'est-ce qu'on dit, Francis ?
Merci.
Tiens. Allez, merci.
Au revoir, les collinets.
Francis Schwab, c'est nano. Maintenant, on en fait des bijoux. Ça allait encore plus loin.
C'est stupéfiant, c'est quelque chose auquel j'avais vraiment pas cru. Je pensais pas du tout qu'il y aurait un tel enthousiasme là autour. J'ai mis mon produit en vitrine, une petite fille est venue, peu de temps après, elle a dit « c'est génial » et c'est parti comme une traînée de poudre dans le village. Les enfants ont suivi. Depuis, ben, c'est vrai que j'ai jamais vu un tel monde, c'est surprenant.
C'est votre fils qui vous a donné l'idée ?
Il m'a dit « papa, est-ce que tu pourrais pas transformer ça ?» Je n'avais pas vraiment envie parce que j'avais plein de choses à faire et puis j'ai essayé. Le résultat était tout de suite sympathique. Ce ne sera pas un produit éphémère. Le système que je mets sur les pendentifs nano permet d'évoluer et puis de changer avec d'autres motifs. Donc c'est une façon de donner une deuxième vie aux nanos.
Est-ce que vous ne craignez pas que la Migros vienne vous demander des comptes ?
J'avais un peu des doutes au départ. J'ai bien réfléchi, mais je me suis dit en fait que j'offre un service de customisation du produit. Donc ils sont plutôt heureux de voir qu'on peut transformer et puis pérenniser ce produit.
C'est quand même pas le bijou traditionnel.
Non, c'est vraiment étonnant, c'est décalé. Moi-même, je me suis pris au jeu, alors que je suis plutôt assez classique. Je trouve assez amusant d'avoir le courage de porter aussi des choses pas trop conventionnelles.
Et puis en ski, Didier Cuche tentait ce matin, lors de la descente de Kvitfjell en Norvège, de s'assurer d'être en tête du classement final de la discipline. Il comptait avant 50 points d'avance sur l'Autrichien Michael Walschhofer. Alain Thévaux, vous êtes en direct avec nous. Paris, pas encore réussi.
Non, Didier Cuche est même le grand perdant de la deuxième descente de Kvitfjell dans la mesure où le vainqueur de l'épreuve est son grand rival, l'Autrichien Michael Walschhofer. Il marque les 100 points de la victoire. Surtout, il devance désormais Didier Cuche au classement de la discipline. Le Neuchâtelois, septième, n'a marqué que 36 points. C'est dire que Didier Cuche, avant la dernière descente de Lanzarote, concède 14 unités de retard. Tout va se jouer donc mercredi prochain dans les Grisons. Aujourd'hui, doublé autrichien Michael Walschhofer a devancé de 13 centièmes son compatriote Klaus Kröll et de 31 centièmes le vainqueur d'hier, le Bernois Beat Feuth. Excellent tir groupé des Suisses qui place 5 coureurs dans le top 9. Patrick Hünger 5e, Carlo Janka 6e, Kuch 7e et Ambrosi Hoffmann 9e.
Et les skieuses, elles, disputent un slalom en République tchèque. C'est l'Autrichienne Marlies Thiel qui a remporté la première manche devant sa compatriote Catherine Zettel. Aucune Suissesse n'a réussi à se qualifier pour la seconde manche dont le départ est prévu à 13h.
15 minutes. Le magazine de reportage de la rédaction.
L'amiante, autrefois isolant miracle, aujourd'hui un poison mortel que l'on retrouve dans presque tous les bâtiments des années 60 et 70. Un poison que Genève et le canton de Vaud, depuis le début de ce mois, veulent mieux éliminer. La hantise de l'amiante. Reportage signé Simon Cortet, réalisation Ismaël Gonzato.
Oui, dès l'âge de 14 ans et demi, 15 ans, que j'ai commencé l'apprentissage. Donc, j'ai fait un apprentissage de menuisier. On travaillait donc le bois, mais on travaillait également les panneaux isolants qu'on allait chercher dans une petite usine. À l'époque, les ouvriers qui nous débitaient les panneaux, ils travaillaient dans un endroit qui était empoussiéré, qu'on se voyait même plus les mains. Nous, on les chargeait après dans une camionnette et on les ramenait à l'atelier. Et après, nous, on les travaillait. Donc,
quand vous dites que vous les travaillez, ça veut dire que encore vous continuez à les couper, à les débiter ?
Tout à fait. Débiter, les percer, les scies à la scie circulaire, sans isolation, sans masque, parce qu'à l'époque, donc, on ne savait pas du tout, personne ne disait que c'était dangereux.
On est dans les années 60. Clément, à quel moment avez-vous appris que l'amiante était dangereux ?
C'est un 2 juin 2006, c'était un vendredi exactement, où j'ai travaillé toute la journée normalement et j'ai eu des douleurs, des fortes douleurs quand je suis rentré de mon travail à 6h30, 7h. J'ai eu une embolie pulmonaire avec épanchement pleural et tous les ennuis possibles. Et c'est là, une fois qu'ils ont fait scanner, IRM et compagnie, qu'on m'a demandé si j'avais travaillé avec l'amiante, parce qu'au vu de ce que j'avais sur les poumons, donc ils sont atteints. Donc, sur tous les rapports, donc c'est marqué depuis ce 2 juin 2006, donc c'est marqué amiante, plaque pleurale. C'est à ce moment-là donc, que j'ai appris que l'amiante était très très dangereux.
Il y a toujours un échantillon qui va au laboratoire et puis un autre échantillon témoin qui reste au bureau, quoi, une copie. Quoi.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces sachets, Jean-Marc Franière ?
Ici, on a pris un revêtement de sol. On trouve des revêtements de sol coulés qui contiennent de l'amiante. Le bâtiment, il date de 1967, je crois. C'est vraiment une période où on aurait pu utiliser de l'amiante.
Vous pouvez nous montrer 2-3 endroits où il y a potentiellement de l'amiante ?
Oui, volontiers, on va faire un tour.
Je m'appelle Peter Keller, je suis directeur de Bière du Boxer, SA. On a des projets de déménagement parce qu'on a acheté une usine à Yverdon. Et pour jouer la transparence avec des acheteurs potentiels, on est en train de faire une analyse pour l'amiante.
Vous avez informé votre personnel, justement, qu'il y avait des mesures pour savoir s'il y avait de l'amiante dans le bâtiment ?
Non, j'ai informé les cadres et j'ai expliqué pourquoi on le fait. Et comme c'est devenu une loi, on inclut ça dans notre dossier de vente.
Si vous voulez faire des transformations dans votre maison, est-ce que vous allez aussi demander à Jean-Marc Franière de venir regarder s'il y a de l'amiante ?
Ouais, écoutez, si on doit le faire, on doit le faire, mais c'est un peu fou. J'ai habité beaucoup à l'étranger, ailleurs, et puis je suis un type qui n'a pas trop peur des choses, parce qu'il faut être un peu réaliste dans tous ces dangers, et il ne faut pas les exagérer, et malheureusement aujourd'hui c'est un peu le cas.
Jean-Marc Franière, alors justement il y a cette loi dans le canton de Vaud, il y a aussi ça du côté de Genève, mais il n'y a pas ça justement dans le reste de la Suisse, en Suisse alémanique d'où vient Peter Keller. Comment ça se fait ?
C'est parce qu'on a quand même une tendance à être influencé un petit peu par les Français, et que les Français, il y a une quinzaine d'années, ils ont mis des directives et des recommandations. En fin de compte, l'obligation de diagnostic qu'il y a actuellement pour démolir un bâtiment en 1996, cette obligation a été mise en place pour l'ensemble des bâtiments en France. C'est des locaux de fabrication où on a beaucoup de surface en carrelage. Alors le carrelage aussi, on a analysé pour savoir s'il y avait de l'amiante. Mais c'est des matériaux qu'on doit identifier effectivement le jour où on fait des transformations de ces locaux, quoi. Le jour où on démolit ces locaux, où on enlève les carrelages. Sinon, vous pouvez bien vous imaginer que la colle derrière le carrelage, ben, il n'y a aucun risque d'exposition des personnes.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on fabrique de la bière. Est-ce qu'il y a un danger potentiel à ce que de l'amiante puisse passer dans le produit ?
Non, il n'y a aucun risque, en tout cas pas dans les liquides, puisqu'à l'époque, tous les vins étaient filtrés sur des filtres en amiante, hein, puisque la fibre, c'est la plus fine qu'on peut trouver. Alors tous les vins qu'on a bu ces 50 dernières années étaient filtrés sur des filtres en amiante, donc il n'y a aucun risque pour la santé d'ingurgiter de l'amiante.
Qu'est-ce qu'on risque précisément comme maladie, Jean-Marc Franière ?
Ouais, j'ai une petite notion des maladies qu'on risque pour l'amiante, mais je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin, je suis plutôt un technicien. Quoi. C'est au niveau médecine, quoi. Aller voir plutôt un spécialiste, quoi. Quelqu'un comme le professeur Guillemin, quoi, qui a travaillé longtemps sur le sujet de l'amiante.
Jean-Marc Franière nous dit que ce n'est pas grave d'avaler de l'amiante. Michel Guillemin, c'est vrai ça ?
J'imagine que si on avale, on mange beaucoup de fibres, il y aura un moment où ça va commencer à circuler dans les organes. Ça pourrait être dangereux, mais ça n'a jamais été prouvé du point de vue scientifique. La chose la plus importante, c'est les fibres sont toxiques pour le poumon et puis elles peuvent traverser certaines membranes et puis après arriver dans la plèvre justement, qui fait ce fameux mésothéliome de la plèvre, qui est un cancer très grave et l'espérance de vie de quelqu'un qui a un mésothéliome est très courte, d'une année à peu près. Donc on sait que la personne est condamnée et la médecine pour l'instant n'arrive pas à soigner ce genre de cancer.
On sait à peu près combien il y a de décès par année en Suisse ?
Alors, on a les statistiques officielles. Les mésothéliomes, ils sont vraiment liés à l'amiante. Et ceux-là, ils sont reconnus par la SUVA, qui est l'assurance qui s'occupe de ça. Et je me souviens plus des chiffres exacts, mais je me souviens que on doit être dans les 70 à 80 ou peut-être même 100 mésothéliomes reconnus par an. Je crois que c'est des chiffres à peu près raisonnables qui vont encore augmenter. Mais alors, on a un énorme chiffre inconnu, c'est les cancers du poumon liés à l'amiante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer un cancer qui est dû à la cigarette et un cancer qui est dû à l'amiante.
Vous disiez que le nombre de décès allait en augmentation ?
Oui, on arrive à faire maintenant, il y a beaucoup de pays qui l'ont fait, la Suisse l'a fait aussi, le parallèle entre la consommation d'amiante qu'on avait depuis les années 60 ou un peu avant, et puis jusqu'à l'interdiction des années 90. Et on voit que les mésothéliomes, avec 30 ans de retard, ont exactement la même forme de courbe. Donc on peut prévoir que le pic est effectivement prévu aux alentours des années 2020.
Là, c'est plus joué. Viens là, maman, viens.
Vous, depuis ce 2 juin, vous ne travaillez plus ?
Non, je suis de 1947, ce qui veut dire qu'en 2006, j'étais dans mes 59 ans. Moi, j'étais parti donc pour aller à la retraite, voir un peu plus loin. Là, j'étais obligé de m'arrêter de but en blanc. Donc, on m'a mis à l'AI, forcé, parce que j'ai ces problèmes respiratoires, que je ne peux pas monter les escaliers d'une traite, enfin tout le... Mon médecin, il a dit, je veux le voir tous les mois pour surveiller justement ça. Parce que je ne peux pas exclure qu'un jour vous ayez le mésothélium.
Donc il y a ce risque, mais aujourd'hui, ça se passe comment une journée ?
Ben une journée, je m'oblige à me lever, mais mes journées se passent à la maison, assis le plus possible, et debout. Parce qu'en position couchée, ben, je ne peux même pas faire ma sieste parce que c'est handicapant, parce qu'il y a toujours cette douleur qui revient.
Il y a toujours un échantillon qui va au laboratoire et puis il y a un autre échantillon témoin qui reste au bureau, quoi, une copie. Quoi.
Pour vous, Jean-Marc Franière, c'est bien qu'il y ait cette loi, parce que ça vous fait beaucoup de boulot.
Oui, effectivement, ça nous fait beaucoup de travail. D'ailleurs, on aura de la peine à suivre. Et j'imagine que dans le canton de Vaud, dans le courant de l'année, il n'y a pas assez d'experts pour faire l'ensemble des diagnostics. Maintenant, c'est une bonne démarche. On aurait pu peut-être sensibiliser un petit peu les autres collectivités publiques ou bien les communes de faire un diagnostic amiante peut-être dans les bâtiments publics, quand je pense aux écoles enfantines ou comme ça, avant de continuer à exposer les gens pendant 30 ans jusqu'à ce qu'on fasse des transformations de l'école.
Ça veut dire que les usagers, les enfants qui vont dans ces écoles, ils risquent quelque chose ?
En fin de compte, les seuls gens qui vont risquer quelque chose dans un bâtiment comme une école ou comme ça, c'est certainement le concierge, les gens qui font de la maintenance, quand je pense à l'entreprise électrique qui peut intervenir là-dedans ou comme ça, sans savoir qu'il y a des matériaux qui contiennent de l'amiante.
Je m'appelle Ludovic Grisoni, je suis responsable du département rénovation du groupe immobilier de RAM et le bâtiment est propriété d'une caisse de pension. Il a été décidé il y a environ 3 ans de procéder à un assainissement total du bâtiment et compte tenu de l'envergure des travaux, nous avons décidé de libérer le bâtiment de ses habitants d'une manière à ne pas leur imposer les nuisances d'un tel chantier.
C'est quoi l'assainissement ?
Ça, c'est pour filtrer l'eau.
L'eau ?
Voilà, parce que pour entrer dans la zone, ils s'habillent complètement avec la combi, le masque et tout ça. Et quand ils ressortent, vu qu'ils sont contaminés, ils doivent d'abord, avec de l'air comprimé et ses poussières, ensuite ils enlèvent la combi, ils se prennent une douche avec du savon parce que les fibres d'amiante ne partent pas seulement avec l'eau. Et puis ensuite ils peuvent se sécher, se rhabiller.
L'eau, alors vous êtes obligé de la traiter alors après.
Oui, c'est pour ça qu'il y a 3 filtres pour jusqu'au filtre absolu qui retient les fibres d'amiante.
D'accord.
Jean-Louis Genre, c'est vous qui avez diagnostiqué la présence d'amiante dans ce bâtiment.
Il y a 30 logements qui sont complètement amiantés et qu'il faut assainir.
Maintenant, j'ai une pensée pour les personnes qui habitaient ici. Ça veut dire que ces gens ont vécu dans des appartements pendant des années qui étaient bourrés d'amiante ?
Alors l'immeuble a été construit en 78, effectivement donc il y a des familles qui ont vécu là-dedans mais qui n'ont en fait couru aucun risque puisque l'amiante était positionné dans des zones confinées, enfin dans des cols de carrelage, donc tant qu'on ne touchait pas aux cols de carrelage, il n'y avait pas de risque.
où là, vu qu'il y avait beaucoup de zones, ils avaient besoin de beaucoup plus d'air, donc ils ont amené un compresseur de chantier. Après, ils ont un boîtier qui filtre l'air pour éviter l'huile et tout genre de choses.
C'est de l'air dégueulasse, normalement, ce qu'ils ont.
Ce chantier ne doit pas être donné, vous savez à peu près combien ?
Alors, pour des questions de confidentialité, je ne peux pas vous transmettre le coût d'investissement.
Ça veut dire que les loyers vont augmenter.
Les loyers vont être augmentés, mais dans le cadre de la loi, puisque les loyers ont été soumis à l'Office du logement.
Qui limite ces augmentations à combien ?
C'est environ 50%.
Non, fini.
Alors là, Clément, on va promener le chien ?
Non, on va prendre la voiture. On va chercher mon épouse, donc, à l'hôpital.
Elle est à l'hôpital ?
Elle travaille à l'hôpital, oui, à la stérilisation. Voilà mes journées, comment elles se passent. Je me lève avec mon épouse et je vais la rechercher quand elle finit le travail. Ça m'occupe l'esprit, ça me permet d'avoir un but. Voilà, mon épouse Nathalie et monsieur de la radio Suisse Romande.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Oui ?
C'était une rude journée.
Oui. Fatigante. Tu manges pas le micro, hein ? Non, mais regarde, elle va le manger.
Nathalie ?
Oui.
L'amiante, ça a changé votre vie ?
Ben, ça a changé l'avenir complètement. C'est au jour le jour. C'est la peur. C'est des nuits passées à côté où on se demande s'il va reprendre son souffle. On est obligé de faire attention quand on doit sortir. S'il nous arrive d'aller en vacances, il faut prévoir qu'il y ait un centre hospitalier pas loin, médecin en tout cas. Voilà. C'est au jour le jour. J'ai descendu mon taux d'activité pour être plus présente et profiter de la vie, tout simplement. Donc, c'est aussi par rapport à l'amiante qu'il peut y avoir à l'hôpital, puisqu'on l'a aussi vu.
Parce qu'il y a aussi de l'amiante à l'hôpital.
Il y a aussi de l'amiante, puisqu'on vient de désamianter nos vestiaires à nous, donc qui font partie du service. Et c'est des choses qui m'interpellent et qui sont dures en se disant je vais tous les jours travailler dans un endroit qui n'est pas bon et qui n'est pas sain.
Donc vous n'avez pas seulement peur pour lui, mais vous avez aussi peur pour vous ?
Oui, bien sûr. On sait très bien qu'en respirant une seule fibre, et vous comme moi, comme n'importe qui, peut en avoir respiré un jour, donc on n'est pas à l'abri.
La hantise de l'amiante, un reportage signé Simon Cortet et Ismaele Gonzato. Nouvelle diffusion en soirée à 22h40 sur la première et en tout temps sur notre site rsr.ch. Et il est temps de prendre connaissance des couleurs du ciel de votre week-end. Avec Carole Dubuis.
Les nuages qui s'établissent progressivement dans le ciel de la Suisse romande seront de plus en plus nombreux cet après-midi. Arrivant du sud, ils annoncent une perturbation qui affectera la Suisse romande cette nuit et demain. À cause du feu qui souffle fortement dans les Alpes, la dégradation sera retardée et asséchée en partie, mais des précipitations toucheront quand même nos régions dès demain. Les nuages seront particulièrement insistants sur le Jura, l'ouest lémanique et la crête sud des Alpes valaisannes où la neige pourrait apparaître. Le thermomètre affichera un maximum de 14 degrés en plaine. En Valais, le mercure grimpera jusqu'à 17. À 2000 mètres, on trouvera 3 degrés. En montagne, un vent du sud s'imposera fortement et pourrait même devenir tempétueux sur les cols et la crête des Alpes. Des rafales de feu souffleront jusqu'à 75 à 90 km/h dans les Alpes. Demain, la pluie tombera sur l'ouest de la Romandie et sur le sud des Alpes valaisannes. En soirée, les gouttes pourraient toucher le reste de nos régions. Lundi, on profitera d'une embellie.
La météo avec le salon de l'auto du 3 au 13 mars à Genève. Infotrafic RSR.
Sur la une, Lausanne-Genève, on roule toujours au pas entre le pont de la Versoie et l'aéroport en direction de Genève. Il y a surcharge de trafic et les parkings aux abords de Palexpo sont quasi complets. Et puis dans le canton de Vaud, la route principale Moudon-Lausanne est toujours fermée dans les deux sens entre Montprevert et Moudon en raison d'un grave accident. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé grâce aux compétences techniques de Fabrice Araldi et de Sandro Lichy. Excellent après-midi à vous, il est 13h.